Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue est l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Faut-il craindre une crise post-électorale au Mali? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nos invités sont Issoufi Yago, représentant de la majorité présidentielle, et Dr Ali Tunkara, sociologue chargé de cours à l'Université de Bamako. Je rappelle que nos tentatives pour compter parmi nos invités un représentant de l'opposition sont restées vaines. Je suis Mohamedou Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Les résultats définitifs de l'élection présidentielle ont été proclamés par la Cour constitutionnelle le 12 août dernier. Toutefois, ils ne sont pas acceptés par l'opposition. Ses responsables ont organisé une manifestation samedi dernier et selon eux, la résistance doit continuer. On va écouter ce reportage de Studio Tamani sur cette manifestation de samedi dernier.
Les manifestants scandaient des slogans comme « Non aux résultats proclamés »,« Non à la dictature de la fraude », »,« Respecter les votes des Maliens ». Ils disent rejeter l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a proclamé Ibrahim Boubacar Keïta président de la République. Selon Soumaïla Cissé, candidat de l'URD et chef de file de l'opposition, la résistance doit continuer.
Le Mali que nous voulons, c'est un Mali sans violence. Pour vous dire, chers amis, nous sommes sur la bonne voie. Parce que nous sommes sur la voie de la vérité. La voie de la vérité, elle triomphe toujours. Restons mobilisés. Continuons à nous battre parce que ce n'est plus une affaire individuelle. C'est une affaire pour tout le monde.
Au cours de la marche, les manifestants ont accusé la communauté internationale de soutenir le pouvoir en place. Certains vont plus loin et estiment que c'est elle qui a élu le président de la République du Mali et non les Maliens. Mohamed Youssouf Batili, d'Iras Batch.
Ibeka est le président de la communauté internationale, pas du Mali. Il a été élu par la communauté internationale pour remplir et satisfaire les intérêts de la communauté internationale. On sait pourquoi. Ibeka a été nommé pour appliquer l'accord. Ibeka est le président des bandits armés. Il est le président de la communauté internationale.
Soumaïla Cissé et ses partisans affirment qu'ils ne lâcheront pas prise jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs objectifs. D'autres manifestations sont annoncées dans les jours à venir.
Issoufi Yago, vous représentez la majorité présidentielle. Vous venez d'écouter ce reportage. Ces réactions de l'opposition, qu'en dites-vous ?
Oui, vous savez, pour moi, c'est d'appeler l'ensemble des Maliens au calme et d'accepter la décision de la Cour constitutionnelle. Nous avons une élection qui a été attestée par l'ensemble de la communauté internationale et de la communauté nationale comme l'une des élections très bien organisées avec des garanties nécessaires pour l'ensemble des parties prenantes à cette élection-là. Je peux comprendre l'amertume de certains et la déception de d'autres lorsqu'on vous avait fait miroiter le fait que vous gagnez une élection d'entrée. Il est très difficile d'accepter la défaite dans ces cas de figure. Mais je pense que la communauté internationale, les observateurs nationaux se sont prononcés et ils ont dit ce que nous pensons que cela est réel. Cela a été attesté par cette communauté nationale et internationale. Et ensuite, elle a été proclamée par le ministère qui est en charge des élections, à savoir le ministère de l'administration territoriale. Puis confirmé par la Cour constitutionnelle, qui est une institution quand même dont son impartialité n'est plus à remettre en cause. Vous savez, ce qui m'étonne souvent, les gens se perdent un peu dans leurs propres contradictions. Une Cour constitutionnelle qui fait que vous devenez député et par voie de conséquence chef de file de l'opposition, ça ne vous a pas choqué quand elle décidait que vous gagnez une élection législative? Mais en même temps, ça vous choque que vous perdiez une élection présidentielle. Je pense que...
D'accord. Quand vous dites que ces résultats ont été proclamés par la Cour constitutionnelle, d'accord, et qu'ils ont été attestés par la communauté nationale, quand vous parlez
nationale
de...
et internationale.
Mais quand vous parlez de communauté nationale, est-ce que vous parlez des observateurs seulement?
Je vais parler des observateurs nationaux et même des électeurs qui sont allés aux urnes.
Okay.
Nous avons quand même 67%.
Mais qu'est-ce qui vous prouve que les électeurs l'ont attesté?
Mais les résultats sont là pour l'attester, cher ami. Vous avez 67% des Maliens qui ont voté pour le président Ibrahim Boubacar Keïta, contre 32% à la tendance. Elle n'a pas varié du premier au deuxième tour. Au premier tour, déjà, le président faisait 41%, à peu près pour 17% pour l'autre. Et ce que nous avons réussi, c'est de rassembler l'ensemble de la majorité. Et là où ils ont échoué, c'est cela, au fait. Je pense qu'à ce stade, ce qui est important, c'est de tirer les conséquences de cette défaite et préparer les échéances futures. Et de faire une propre autocritique. Je sais que le moment n'est pas favorable à l'autocritique, mais de faire une autocritique et voir ces stratégies, les stratégies électorales adoptées, les stratégies de communication et même les stratégies du choix des personnes chargées d'animer cette campagne électorale à leur niveau. Donc je pense que...
À votre niveau, tout va bien?
Non. Nous avons tiré les conséquences qui sont les nôtres et nous allons prendre des mesures pour que dans l'avenir on puisse... mieux faire que maintenant. Notre objectif, c'est de toujours s'améliorer et d'accepter les critiques quand elles sont positives, mais ne pas sortir du cadre.
Ça, c'est une critique de l'opposition. Est-ce que vous l'acceptez?
Ce n'est pas une critique, c'est une analyse qu'ils font depuis bien avant.
Mais les critiques sont toujours
avant.
Une analyse.
Non, je dis bien, c'est quelque chose qu'ils font depuis bien avant les élections. C'est-à-dire que les gens vont opiner sur les résultats d'une élection qui ne s'est même pas encore tenu, pour dire que si d'aventure le président sortant gagnait les élections, il n'allait pas l'accepter. Et donc, ils ont fait tantôt planer le spectre de la fraude. C'était un langage de communication bien rodé.
D'accord, je vais donner la parole tout de suite, docteur Ali Tunkara. Mais est-ce que ce n'est pas la même mentalité quand on dit en Afrique, en tout cas, le président, quand il organise des élections et qu'il est lui-même candidat, il gagne toujours? Donc, est-ce que ce n'est pas la même mentalité qui vient des deux côtés?
Ce n'est pas ce que je pense. Et je pense que les Maliens ont voté pour le président Ibrahim Boubacar Keïta massivement. En raison de son bilan qui est hautement positif, on peut en discuter si vous voulez, mais avec un bilan hautement positif dans le secteur de l'économie, dans le secteur de la défense, dans le secteur de la jeunesse, dans le secteur des femmes, dans le secteur agricole, c'est un bilan qui est globalement positif et défendable. Ensuite, nous avons présenté un nouveau programme qui s'articule autour d'un certain nombre de points. Nous avons communiqué, mené une campagne de proximité. Je pense que c'est cette campagne qui a payé. Pendant que nous étions en campagne, certains se concentraient à faire du bashing du président de la République. Vous savez, lorsque en politique, vous vous attaquez tellement à une personne, ça produit l'effet contraire. Et c'est ce qui s'est passé.
D'accord.
Nous sommes restés sereins et nous avons mené une campagne saine et républicaine.
D'accord, auditeurs et téléspectateurs, je rappelle que nous avons tenté de compter parmi nos invités un représentant de l'opposition en vain. Alors, docteur Ali Tunkara, vous êtes sociologue chargé de cours à l'Université de Bamako. L'opposition qui dit non aux résultats proclamés, non à la dictature de la fraude, respecter le vote des Maliens, et la majorité présidentielle qui dit que ces résultats sont les bons résultats et que la communauté nationale et internationale l'a confirmé.
Bon, je vais forcer de ne pas succomber au charme du jugement, mais je crois qu'il est quand même extrêmement important de rappeler quelques éléments qui pourront aider nos auditeurs et téléspectateurs de comprendre le pourquoi justement de cette pluralité de points de vue quant aux résultats obtenus à l'issue du scrutin. Il faut quand même se rappeler que dans le contexte malien, des années 90 à aujourd'hui, si l'on regarde avec une attention accrue comment les élections sont organisées dans les fins fonds du pays, notamment les contrées des régions dites nord du Mali, même parfois une partie du centre du Mali, on se rend compte quand même que ce sont des localités qui ont toujours connu à la limite des élections qu'on pourrait qualifier de mascarades. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est extrêmement important quand même de le rappeler. Et il faut surtout insister sur le fait que, même si aujourd'hui il y a des acteurs qui le contestent, ce sont ces mêmes acteurs aussi qui, dans le temps, était à la limite à la manœuvre. Mais ce qui est fondamental pour comprendre aujourd'hui la pluralité d'expression s'agissant de ces résultats, vous regardez qui sont les acteurs qui ont organisé ce processus jusqu'ici. Vous allez vous rendre compte que s'agissant déjà du Premier ministre actuel, qui a quand même été démis de ses fonctions pour des raisons liées à des malversations financières. D'autres acteurs également qui sont extrêmement importants dans le processus, qui, dans le passé, ont fait l'objet de pratiques qui ne sont pas orthodoxes. Comment voulez-vous demander à des acteurs, dans leur trajectoire, ont fait l'objet à toutes sortes de manquements, lesquels acteurs, justement, voulaient qu'ils fassent des élections qui soient crédibles et, à la limite, acceptées. Je pense qu'on est dans un déni de l'évident dans le contexte malien. Vous regardez toute l'équipe gouvernementale qui a quand même usé des moyens de l'État de façon tronquée. Dans une démocratie, c'est quand même scandaleux que des ministres battent campagne au nom du quinquennat sortant. Moi, je trouve ça très scandaleux. Dans le même temps, si vous regardez tous ces ministres également, les médias qui doivent être l'expression de la pluralité, l'expression justement de la contradiction, et lesquels médias sont sérieusement misélés. Si quelqu'un peut m'expliquer dans le contexte malien que l'avènement de la démocratie aujourd'hui, que les médias d'État ont constitué justement, si vous voulez, un cadre d'échange substantiel entre les acteurs sur la scène politique, je dirais qu'on est certainement dans deux Mali. Mais le Mali réel dans lequel sommes-nous, c'est un Mali où le misélement de l'expression contradictoire est une évidence. Mais surtout, je crois qu'il est extrêmement important pourquoi les gens contestent aujourd'hui les élections. Qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la majorité. Prenez les différents acteurs qui sont en charge de ces scrutins. La question d'orthodoxie, la question d'éthique, la question de trajectoire nous pose quand même des questions substantielles quant à la validité ou à la non-validité du scrutin. Pas mal de localités, on parle des observateurs nationaux et internationaux. C'est quand même insultant dans un État sérieux, après plus d'une cinquantaine d'années d'indépendance, que les élections soient validées par des acteurs externes. Je crois que, à mon entendement ou à ma connaissance, je n'ai pas vu un pays occidental qui demanderait le point de vue d'un pays africain ou d'un expert africain pour se pencher sur la validité ou la non-validité de son scrutin. Donc c'est la témoin insuffisance à combien sommes-nous même dans une démocratie qui, à la limite, est en construction. Et fondamentalement, pour comprendre avec aisance le pourquoi de ces protestations, le pourquoi de ces contestations, ce sont plutôt les acteurs qui sont à la base du scrutin, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la majorité. S'agissant de l'opposition, prenez leur trajectoire, ce sont quand même des acteurs qui, à un moment donné, leur parcours politique, ont connu ce qu'ils qualifieraient aujourd'hui de la mascarade, ont connu de la fraude, on connaît dans quel contexte, effectivement, les élections ont eu lieu dans des localités précitées, sous ces mêmes acteurs qui sont aujourd'hui de l'opposition et qui ont quand même applaudi ces élections en son temps. De la même manière également, si vous prenez la majorité, ce sont quasiment les mêmes acteurs. Je crois que le problème fondamental du Mali aujourd'hui, au regard même des taux de participation, témoigne à suffisance à combien sommes-nous à la limite dans les dénis de l'évident. Vous demandez à des gens, durant tout leur parcours, ils ont connu que des faits qui n'honorent pas un État-nation. Et vous demandez, pour un intervalle précis, les gars, soyez sérieux, soyez crédibles, soyez transparents. Vous voyez à combien la contradiction, elle est totale. Comment peut-on, je dirais, c'est quand même un paradoxe, éduquer un enfant dans une dynamique où on lui demandera, du jour au lendemain, de rompre avec cette dynamique. C'est cela, en fait. Et je crois qu'on se moque des Maliens. Comment, pour qui connaît les Mali, on peut demander aujourd'hui à ces acteurs d'organiser un scrutin crédible, franchement, toute objectivité, qu'on soit l'opposition, qu'on soit la majorité, si les demandes sociales maliennes doivent avoir des solutions durables aujourd'hui, elles sont loin d'être dans ces deux camps, au-delà des trajectoires que ces deux camps ont connues ou connaissent aujourd'hui. Je crois qu'il est quand même extrêmement important, d'ores et déjà, qu'on se dise que le fait que le quinquennat actuel est dans le déni de la contradiction, c'est une évidence, personne ne peut le nier. Il suffit juste de regarder les médias de l'État au bout d'une demi-heure. Vous allez vous demander, est-ce sommes-nous dans une démocratie ou sommes-nous dans un isolement absolu de l'expression plurielle. Je crois que ça, moi, à mon entendement, c'est une des raisons essentielles qui expliquent le pourquoi certains, notamment sur l'opposition, continuent d'ailleurs à entretenir l'hypothèse de la mascarade électorale. Donc je crois qu'il faut vraiment libérer la parole qu'on donne la parole aux acteurs qui sont neutres, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, parce que partout, les acteurs sont entendus, effectivement, et les partis sont nettement penchés, soit vers l'opposition, soit vers la majorité. Donc, en somme, aujourd'hui, dans le contexte malien, parler de la transparence du scrutin au regard de ce qui se passe aujourd'hui est même insultant. Moi, je pense que ces acteurs, des acteurs ne sont pas capables d'organiser un scrutin transparent au regard de leur trajectoire, sauf si l'on veut s'inscrire également dans le déni de l'évident.
D'accord. Alors, Monsieur Issoufi Iyago, face à cette situation, est-ce qu'il faut s'attendre à une crise post-électorale?
Bon, je pense que si vous n'avez pas de représentant de l'opposition, je pense que je suis bien servi. Monsieur parlait comme s'il défendait l'opposition, mais il est dans son rôle.
Il a parlé des deux camps également.
Non, j'ai constaté qu'ils avaient la même dialectique en même temps que les gens d'en face. Mais c'est tout à fait normal, il faut des opinions dissidentes dans une démocratie pour qu'on puisse avancer. Donc il a soulevé un certain nombre de griefs. Moi, je pense qu'il faudra être dans la mesure, en fait, c'est-à-dire que dire que quelqu'un ait un passif quelconque, c'est qu'il faudra apporter les décisions de justice qui condamnent X ou Y qui vont dans ce sens-là, et attester et affirmer ici que les ministres qui, par nature, sont des individus et qui sont des électeurs par nature et qui, à chaque fois, vont sur un terrain politique, vont se défaire de leur camisole de ministre et ensuite vont user des moyens dont ils disposent en tant que chef de parti politique. Donc,
est-ce que c'est facile, s'il vous plaît,
dans aucun pays aujourd'hui.
Est-ce que c'est facile pour le Malien lambda de faire cette distinction?
Je vais vous faire le point. Dans aucun pays aujourd'hui, on ne peut attester pour dire que nous sommes dans deux cas différents. Même si vous prenez, si vous voulez, les grandes démocraties aujourd'hui. Vous prenez les grands pays, même les grands pays, nous sommes une grande nation, bien entendu. Mais pour dire qu'un ministre en fonction ne fait pas de campagne, ça n'existe pas. Ça n'existe dans aucun pays. Vous pouvez montrer un pays où un ministre...
Non, parlons du Mali.
Mais quand même,
on n'est pas... Vous l'avez dit, selon vous, la différence entre la majorité et l'opposition, ça a été que la majorité a battu campagne au
tout
fin
à fait.
Fond du pays.
Tout à fait.
Avec quels moyens?
Ben avec les moyens dont ils disposent, dont la majorité dispose. Nous, on n'a pas utilisé les moyens de l'État.
Ah bon?
Mais non.
D'accord.
C'est vous qui le dites, apportez la
je
preuve.
Je ne dis pas.
De...
C'est à vous.
Apportez la preuve de ce que vous dites.
Nous sommes souvent dans
des accusations qui ne sont pas parties, ma foi.
Loin de là, on ne vous accuse pas. On vous pose des questions, d'éclaircir l'opinion publique.
Ce que je suis en train de dire ici, c'est que souvent, on affirme des choses sans apporter la preuve. Je ne vous accuse pas, vous.
D'accord.
Je parle de manière générale.
OK.
Dans chaque pays, je le répète ici, les ministres, en tant que chef de parti ou en tant qu'individu, en tant qu'électeur, vont mener campagne. Mais ce n'est pas pendant qu'ils sont ministres. On sait faire la part des choses.
D'accord.
Donc, c'est un peu compliqué.
Je vais revenir à
votre question. C'est les précisions qu'il faut apporter.
Faut-il craindre une crise post-électorale?
À mon sens, non. L'idée, c'est de faire planer le spectre de la crise post-électorale. Je l'ai dit sur d'autres plateaux, c'est que le peuple malien est un grand peuple. Il sait faire la distinction et la différence entre les choses. Il sait pour qui il a voté, le peuple. Le peuple sait pour qui il a voté.
Qui est sorti dans la rue?
Vous me dites que l'opposition était dans la rue. Donc, je vous suis au mot, monsieur. C'est pas à moi de le dire.
Qui est sorti dans la rue pour
vous m'avez dit que c'est l'opposition. Donc, je vous prends au mot, monsieur.
Mais est-ce que ceux qui étaient sortis ne sont pas des Maliens également?
Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a eu une élection. On n'a pas dit que le président Ibrahim Bouakhaghi Keïta a gagné avec 100%. Il a gagné avec 67%.
Mais quand vous dites
en face,
tout le monde, monsieur Iyago.
En face, il y a un autre candidat qui a eu 32%.
D'accord.
Et donc, ces gens ne sont pas contents des résultats. Ils sont sortis, c'est le peuple malien aussi.
D'accord.
C'est ce que nous sommes en train de dire. Okay. On ne dit pas que le président a gagné
l'élection.
Est-ce
que vous prenez en compte leurs préoccupations?
Mais tout à fait. On est obligé de prendre en compte, c'est quand même 32%.
Comment?
C'est quand même 32% de personnes qui ont voté.
Oui, mais comment,
pour eux.
Comment vous prenez en compte leurs préoccupations?
On leur demande, comme le président l'a dit, d'accepter la main tendue qui a été offerte pour que ensemble nous construisions ce pays, ensemble nous puissions faire face aux défis qui nous attendent.
Qu'elle soit la mauvaise ou la bonne, d'accepter quand même la main.
Dans le défi majeur.
Qu'elle soit la bonne ou la mauvaise, d'accepter quand même la viande.
Je ne sais pas ce que vous avez dit par là, je ne comprends pas. Le défi majeur.
Vous ne comprenez pas ou vous ne voulez pas
comprendre? Je ne comprends pas ce que vous avez dit.
Le vous défi demandez majeur. Aux Maliens qui n'ont pas voté, qui n'auraient pas voté pour Ibeka, par exemple, d'accepter la main tendue. Je demande, est-ce qu'ils doivent l'accepter, qu'elle soit bonne ou mauvaise?
Je répète ce que le président a dit, j'en appelle à mon frère, candidat, que la bataille électorale, elle existe, et qu'après la bataille électorale, je tends ma main pour qu'on puisse construire le pays ensemble. Donc,
d'accord, dire qu'elle est bonne ou mauvaise... Vous dites que vous ne craignez pas une crise post-électorale, mais est-ce que vous prévoyez cela? Vous avez pris des mesures?
Je ne suis pas membre du gouvernement, cher ami.
Vous représentez la majorité présidentielle.
Je suis représentant de la majorité présidentielle. Il y a une élection. Les autorités légitimes, en ce sens, qui ont l'habitude de proclamer les résultats, ont proclamé. Il y a une cour de justice qui est la cour constitutionnelle. S'est prononcée à vider le contentieux électoral. En ce sens, sa décision n'est susceptible d'aucun recours. La question juridique, elle est close à ce moment. On peut ouvrir les débats politiques, les questions relatives à l'amélioration du contexte politique, ça, on peut l'ouvrir. Ce que je veux dire, monsieur, c'est que personne ne nie l'évidence. On a pris compte de l'évidence. Mais nous avons mené une campagne sincère, une campagne franche, pendant laquelle nous sommes allés au contact des Maliens, expliquer notre programme et ensuite parler de notre bilan. Ils ont adhéré à notre bilan. Ils ont accepté notre bilan. Ils ont adhéré à un projet. Ils ont voté massivement pour nous. On peut dire que on n'est pas d'accord, mais que l'ensemble de la communauté internationale se trompe, que la communauté nationale se trompe.
Mais pourquoi vous commencez...
Pour rappel, s'il vous plaît, une question pour
mieux comprendre. Pourquoi vous commencez toujours par la communauté internationale? Est-elle plus importante que la communauté nationale?
C'est vous qui le dites, c'est pas moi qui le dis.
Je pose la question parce que c'est la troisième fois que vous commencez par la communauté internationale. Est-elle plus importante que la communauté nationale?
Je n'ai pas dit cela, j'ai dit que...
Mais répondez, même si vous ne l'avez pas dit. Est-elle plus importante que la communauté nationale?
Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous n'allez pas me faire dire ce que je ne dis pas.
Non, je pose juste la question.
Non, mais la question elle n'a pas lieu.
Entre la communauté nationale et la communauté internationale, laquelle est la plus importante?
Ce n'est pas l'objet du débat. Nous avons un débat.
C'est une question, c'est un débat, ça fait partie des questions. C'est moi qui contrôle le débat. Je pose la question, vous répondez. Entre la communauté internationale et la communauté nationale, laquelle est la plus importante?
Je ne vous répondrai pas, cher ami.
Ça, c'est votre droit également.
Merci beaucoup.
Alors, docteur Ali Tunkara, faut-il craindre une crise post-électorale?
Bon, je crois qu'au regard de ce que nous observons, toute objectivité, si l'on peut qualifier la crise électorale, en tout cas ce qui est perceptible aujourd'hui, il y a des tensions. Lesquelles tensions pour nous? La contestation des résultats obtenus à l'issue du scrutin. Mais maintenant, où vont ces contestations? Où vont justement ces marches sporadiques qui sont quand même faites ça et là? Je crois que toute la question, c'est là. Mais fondamentalement, il serait quand même extrêmement important dans le contexte malien qu'on comprenne une chose. Apporter son point de vue dans une discussion ou dans un débat quelconque est loin d'être un Malien à moitié où on serait à la solde de l'Occident. Je crois qu'il est extrêmement important qu'on arrive à se soustraire de cette fameuse communauté internationale qui n'est que dans quelques centres de votes urbains. C'est ce que les gens ne le rappellent pas suffisamment. La communauté internationale en elle-même, elle n'est que dans des centres urbains, à peine 100 et quelques bureaux qui sont, si vous voulez, visités ça et là par ce qu'on qualifierait de la communauté internationale. Mais je crois que la validité d'un scrutin, elle dépasse largement c'est laps du temps que la communauté internationale consacre à l'observation. Je crois que ce n'est pas à elle, moi je comprends aisément, de dresser la barre, ce n'est pas à elle justement, de rendre le scrutin, si vous voulez, orthodoxe, transparent. Tel n'est pas son rôle. Elle est là en tant que... elle nous accompagne, pour reprendre son propre terme. Mais ce qui est important dans le contexte malien, je suis persuadé que, qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, si vous questionnez aujourd'hui les Maliens qui sont neutres avec ce qui se passe, ils vous diront qu'effectivement... ce ne sont pas les deux acteurs qui seraient la solution de ce qui se passe aujourd'hui comme problème au Mali. Mais maintenant, faut-il... craindre des crises post-électorales, Naturellement, les réponses sont à la fois oui et non. Oui, en ce sens qu'effectivement, si vous regardez la manière dont les marches sont quand même tenues, ça pourrait nous penser à des tensions qui s'inscriveraient dans la durée. Mais dans le même temps, on peut dire aussi non, si on s'en tient aux textes fondamentaux comme la République qui ont quand même proclamé des résultats sans être définitifs au terme d'un scrutin. Donc je crois que tous les points de vue vis-à-vis de cette tension ou de non-tension sont à scripter avec, si vous voulez, objectivation. Mais fondamentalement, les gens qui ne sont pas d'accord aujourd'hui avec ce qui se passe sur la scène politique, il faut avoir le courage de les entendre. C'est vrai que M. Youssoufou nie en bloc quand même que, effectivement, partout ailleurs, les ministres usent des moyens publics, voilà, ils paient ou pas. Je crois que, enfin, vous entendre quand même, c'est ce que j'ai cru entendre de votre part. Voilà, et c'est ce qui est vraiment le cas. Franchement, j'inviterai à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, de regarder au bout de 10 minutes les médias publics maliens et de se faire une idée sur ce qu'on pourrait qualifier la démocratie. Parce qu'il y a des fondamentaux de ce qu'on appelle la démocratie. Il y a des fondamentaux, qu'on soit à Bamako, qu'on soit à Pékin, qu'on soit à Jakarta, qu'on soit à Washington DC, ça ne change pas. Ces fondamentaux ont pour nom la liberté d'expression. Elle est quasi absente dans le contexte malien, notamment, mais monsieur, soyons quand même sérieux, Prenons aujourd'hui la marche qui a eu lieu le samedi. Je suis loin de l'opposition, ça je vous le garantis. La marche qui a eu lieu le samedi passé, dans une démocratie même en construction, on n'a même pas, à la limite, consacré 5 minutes via les médias de l'État. De quelle démocratie sommes-nous? N'oublions pas que les acteurs qui rythment aujourd'hui les médias de l'État sont payés par les impôts des contribuables maliens. Ces contribuables ne sont ni de l'opposition, ne sont ni de la majorité, ils s'appellent des Maliens. Mais je crois qu'il est extrêmement grave dans une démocratie que tout se résume au quinquennat, que tout se résume à la merci quand même du quinquennat. Je crois que c'est scandaleux. J'ai peur, effectivement, que cette démocratie ne s'étiole pas dans sous peu d'ailleurs, au regard de ce qui se passe sous nos yeux. Un des fondamentaux également de la démocratie, partout où vous allez ailleurs, c'est la redevabilité. Franchement, grève des magistrats, des enseignants, des médecins, tous les corps confondus, vous sortez en dépit de toutes ces grèves avec 68%, vous vous moquez de qui, les gars? Je crois qu'il faut que vous soyez. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a la magistrature qui est en grève. Donc, je pense que, sincèrement, les états qui nous sont proposés peuvent contenir des biais sérieux. Si l'on analyse la situation du pays ces 10 dernières années, on se rend compte quand même que franchement, ce que disent les Maliens du Mali profond, ce que disent les Maliens de Mopti, de Tombouctou, de Kidal, et interroger les Bamakois, je pense que franchement, on n'est pas dans le déni de l'évident, on le fait de sous-Maliens en réalité, je crois. Il est quand même extrêmement important, si l'on veut que cette opposition revienne sur la raison, si on peut s'exprimer ainsi.
Justement, quand l'opposition déclare la résistance doit continuer, n'est-elle pas, cette expression n'est-elle pas forte?
Non, je le disais dans mes propos introductifs. Franchement, je n'entends aucunement d'un quelconque changement de cette opposition. Ça, je suis ferme là-dessus.
Et déjà, cette résistance dont elle parle, est-elle raisonnable?
Je pense qu'elle tire un peu sous la ficelle et sentimentale. Parce que franchement, pour opérer un changement quelconque, prime abord, il faut que les acteurs de changement soient eux-mêmes déjà, acceptent eux-mêmes déjà de rendre compte. Si l'on regarde aujourd'hui les acteurs clés de cette opposition, ça ne nous rassure aucunement qu'un changement probable pourrait venir d'eux. Ce n'est pas une insulte de leur part. Mais je crois que fondamentalement, il faut quand même respecter leur point de vue.
D'accord. Je vais utiliser cette expression Bambara. Quand Mbétan Koumi, Mbétan Djami, quand vous dites tout de suite que l'opposition, la majorité, on ne peut pas se fier à ces deux camps. Alors que c'est les deux camps qui sont censés se retrouver au top niveau pour pouvoir trouver des solutions au problème des Maliens. Alors, qui pourra trouver une solution au problème des Maliens?
L'opposition parle d'achat de voix. Elle ne peut pas nier qu'elle-même l'a fait. On a vu, j'ai vu de mes yeux l'opposition acheter aussi des gens, enfin, parce que là, effectivement, qui sont en langue de ça, j'ai vu.
Vous avez vu la majorité comme, aussi le faire?
Comme la majorité également. Donc, c'est pour vous dire que, franchement, les mots dont souffre aujourd'hui, dont c'est dit souffrir l'opposition, ce sont ces mêmes mots qui sont également trouvables dans la majorité. Donc c'est pour vous dire que franchement, les solutions réelles des problèmes auxquels les Maliens sont confrontés ne sont ni avec la majorité, ni avec l'opposition. Les gens me trouveront un peu trop radical. Ce n'est loin de la radicalité. Mais je suis dans une analyse tout à fait objective, justement, de la situation de mon pays. Aujourd'hui, concrètement, qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, qu'est-ce qu'il faut faire pour se retrouver dans un état avec, si vous voulez, apaisé, dans un état serein? Vous entendez ça et là, on veut un pays calme, on veut un pays stable. Il y a des préalables pour qu'il y ait la stabilité, pour qu'il y ait la paix. Ces préalables ont pour nom déjà une justice équitable entre les acteurs. On le disait tantôt, on est loin de ce point déjà. C'est pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la stabilité, il y a des préalables qui ont pour nom également justement cette pluralité d'expression qui est quasi absente. Tout le monde peut le vérifier à 20h en regardant le journal télévisé du Mali.
D'accord. Alors, Issoufi Yagou, êtes-vous d'accord avec Dr Ali Tunkara quand il dit que ça ne va pas des deux côtés?
Bon, vous savez, hein, je lui donne... je l'accorde ce qu'il est en train de dire, même si, par moments, je pense que monsieur est en train de se tromper. Il n'est pas radical.
Mais vous êtes d'accord.
Il n'est pas... Je dis qu'il est en train de se tromper, comment je peux être d'accord? Il n'est pas radical, mais il est en train de se tromper. C'est ce que je pense. Parce qu'on ne peut pas dire qu'une personne pour qui les Maliens ont adhéré à son programme, à son projet, que cette personne n'est pas capable de gérer après avoir géré pendant 5 ans. Moi, je pense qu'il y a un problème.
Il a parlé des grèves.
Il y a un problème à ce niveau. Tout de suite, il faut que je précise quelque chose. Quand on parlait de communauté internationale. La communauté internationale, c'est vous et moi. C'est l'ensemble des pays. Le Mali fait partie de la communauté internationale. Tout de suite, il y aura une élection, je ne sais pas, au Congo, quelque part. Nous, nos observateurs peuvent aller surveiller, c'est constater. Et je vais pas parler de la France.
Oui,
Peuvent aller aider ces pays-là à mieux organiser, mais à constater un certain nombre de choses. Et une dernière chose, c'est pas la communauté internationale qui valide une élection. Ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas exact. Nulle part, la communauté internationale ni l'ensemble des observateurs nationaux ne valide une élection. Ils constatent des choses, ils font un rapport par rapport à ça pour dire est-ce que ça a été sincère, crédible ou pas. Est-ce que si on prend cette circonscription électorale, je le rappelle, le Mali était une circonscription électorale quand on parle...
Quand vous dites que Dr Ali Tunkara se trompe, à quel niveau?
Non, le fait de dire que la communauté internationale valide les élections, ce n'est pas exact. Elle constate quelque chose et elle le dit. La Cour va statuer.
Vous avez dit que la communauté internationale a attesté.
La communauté internationale l'a attesté. L'Union européenne, c'est une communauté internationale. L'Union africaine, c'est la communauté internationale. Les Nations unies, c'est la communauté internationale.
Est-ce que vous êtes d'accord avec lui que des deux côtés, ça ne va pas?
Ça, c'est son avis. C'est son avis, je l'accorde sincèrement.
Du côté de la majorité.
Personne n'a dit que c'était rose. Si c'était rose, personne n'allait gouverner. Vous savez... Nous avons géré un pays.
Oui, est-ce que vous êtes conscient de ce qui vous manque au niveau de la majorité?
Mais quand vous nous posez les questions, vous nous laissez terminer, comme mais ça on peut
vous,
aller
vous
à l'autre.
Vous ne répondez pas à la question qui a été posée.
Oui, mais ça c'est ce que vous pensez.
Répondez à cette question. Qu'est-ce qui vous manque du côté de la majorité quand vous-même vous admettez que tout n'est pas rose?
Je n'ai pas dit ça. Je suis en train de vous dire...
Monsieur Yagou, vous n'avez pas dit tout de suite que tout n'est pas rose.
C'est pas rose, c'est pas moi qui le dis. D'accord. Ce que je suis en train de dire...
Qu'avez-vous dit alors?
Ce que je veux vous dire, c'est que nous avons pris un pays en difficulté. Et ça, c'est connu sur le plan sécuritaire,
Et vous avez dit que vous pouvez sortir ce pays de ces difficultés.
Mais bien sûr, on a dit qu'on va prendre des dispositions pour que cela soit. Et nous sommes battus pour arracher les accords de paix. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, les frères maliens se regardent. Il n'y a pas de belligérence. Il n'y a pas de guerre entre nous. Le président Ibeka a été à Kidal pour chacun.
Juste une autre question. Il a été à Kidal lors des cas de la
laissez,
campagne
vous
électorale.
Vous ne me laissez
jamais juste une question. C'est que quand il dit que vous dites que les Maliens vous ont élu, mais sauf qu'il y a eu des grèves, des magistrats, des médecins, il l'a cité tout de suite, Dr Ali Tunkara. Mais malgré tout cela, en un si peu de temps, vous avez pu obtenir ce taux. Expliquez aux Maliens comment.
Alors, vous savez, une élection se passe dans un contexte et un pays va connaître toujours des grèves. À chaque fois quand je parle, je fais de l'analogie avec d'autres pays parce que nous sommes une communauté internationale. C'est là où je vais vous en venir. Vous ne comprenez pas l'idée de communauté internationale.
Non. Mais laissez-moi terminer. Écoutez-moi, parce qu'il faudrait que je précise quelque chose. Vous l'avez dit que vous avez battu campagne au fin fond du Mali. Mais pour que le Malien lambda puisse comprendre, est-ce que le Malien lambda connaît c'est quoi la communauté internationale?
Je peux terminer, s'il vous plaît?
Allez-y.
Votre question, c'était de dire quoi? Rappelez-moi ma question parce que vous me perturbez à chaque fois.
Je vous perturbe.
Mais vous me coupez la parole à chaque fois. Alors, reposez-moi la question.
La question est la suivante. Ouais. Docteur Ali Tunkara estime que vous dites que...
Il y avait la grève. Oui, c'est lui. Voilà. Donc, il y avait la grève partout. Voilà. Il y avait la grève des médecins et ainsi de suite.
Donc, comment vous avez pu obtenir...
Je vais vous expliquer tout de suite. Je prends un pays comme la Côte d'Ivoire, 40% du PIB de l'UEMOA, qui est une puissance francophone, a connu une multitude de grèves. La France connaît des multitudes de grèves, mais les grèves, on les gère. C'est des problèmes sociaux dont on prend en charge.
Restons ici, au Mali,
nous avons connu la grève des magistrats. Nous avons tiré les conséquences et on a apporté les réponses qu'il fallait. Nous avons connu d'autres grèves dans d'autres secteurs. Nous nous sommes assis avec les acteurs, on a échangé et nous avons apporté les réponses qu'il fallait. C'est la première fois que les syndicats sont satisfaits parce qu'il y a une augmentation des salaires, il y a une baisse de l'IDS.
La première fois qu'ils sont satisfaits.
Pendant les cinq ans, ils sont très satisfaits parce que pourquoi ? Il y a eu une augmentation des salaires, il y a eu une baisse de l'ITS. Ça, c'est connu de tout le monde. Les grèves, vous pensez que les grèves, on les arrête des coups de bâton ? Les grèves, ça existe dans tous les États. Je pense que c'est des débats, c'est des sujets, franchement, de façon satisfaisante.
D'accord,
parce que nous avons apporté les réponses.
Monsieur Yago, qui sera investi le 4 septembre 2018 ? Parce qu'on entend que le président Ibrahim Boubacar Keïta sera investi le 4 septembre 2018. Et au même moment, on entend l'opposition dire que Soumaïla Cissé sera investi le 4 septembre 2018.
D'accord. Alors, qui ? Est-ce que vous allez me laisser terminer ma...
30 secondes.
D'accord. Nous avons un président de la République qui a été élu par les Maliens avec un taux de 67%, proclamé par les autorités en charge des élections. Confirmé par une cour constitutionnelle qui est le juge électoral par essence et qui a vidé le contentieux électoral et qui a dit que le président sera investi, le président Ibrahim Boubacar Keïta sera investi en tant que président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. La question ne se pose plus. Est-ce que moi, en tant que citoyen lambda, je peux empêcher une personne de se proclamer, je peux empêcher une personne de dire, je veux simplement appeler les gens à l'apaisement, au calme, et accepter les résultats issus des urnes, à accepter les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle.
Qui est à votre faveur.
Ça, c'est votre avis. Je vous l'accorde.
Alors, docteur Ali Tunkara, face à cette situation,
c'est quand même insultant de dire ça.
Non, mais c'est la majorité présidentielle qui a gagné, c'est ce que vous avez dit tout de suite.
Vous me décevez, cher ami.
Quand vous me dites que la cour, à notre faveur, c'est pas la cour, les résultats, je précise.
Ah, ben voilà.
Les résultats, vous l'avez dit, les résultats qui sont à votre faveur.
Merci pour la précision.
Je l'ai précisé. Voilà. Docteur Ali Tunkara, alors, face à cette situation, que faut-il faire pour éviter une crise post-électorale?
Bon, je crois qu'il n'y a vraiment pas de solution toute faite. Il faut qu'on s'éclaire déjà là-dessus. Et même l'opposition elle-même ne sait pas sincèrement, en toute objectivité, la finalité de ses actions. Ça, je suis persuadé de cela. Je crois qu'on est quand même dans des... Je suis qu'on pourrait qualifier incertaines. Mais fondamentalement, ce qui est à craindre, c'est quand même l'arrêt de l'économie. Parce que si vous regardez autour de vous, que ce soit au niveau de la sous-région, au-delà, beaucoup de questions se posent aujourd'hui. Est-ce que faut-il venir au Mali? Faut-il s'investir? Voilà, donc je crois que c'est quand même des inquiétudes qui sont tout à fait légitimes, auxquelles les acteurs nourrissent aujourd'hui. Mais comment pallier à tout cela concrètement? Moi, je trouve que le processus, il est long. On est très, très loin du bout du tunnel parce que, je disais tantôt, ni l'opposition, ni la majorité ne seraient en mesure justement d'apporter des solutions durables aux demandes sociétales auxquelles les Maliens ont exprimé ça et là. Et lesquelles demandes ont pour nous la question sécuritaire. Franchement, si on me dit qu'aujourd'hui, Le Mali est sécurisé. Pour qui connaît la raison de Mopti, je pense que ceux qui nous écoutent de Mopti, ils pensent qu'on se moque de... qu'ils parlent de la sécurité à Kidal ou à Gao, je crois qu'on se moque de ces localités. Et fondamentalement, si vous regardez, une des priorités de ce quinquennat était justement de lutter efficacement contre la corruption. Mais voilà un quinquennat qui commence avec des malversations financières aussi scandaleuses. Comment ? Vous pouvez me citer.
D'accord, docteur Tunkara, ouais. Il nous reste juste deux minutes. Alors, est-ce que la société civile malienne, les leaders religieux, peuvent faire de telle sorte qu'il n'y ait pas une crise post-électorale ?
Ces acteurs, ils ne peuvent rien faire pour preuve. Que vous prenez les cas des musulmans ou des chrétiens, notamment les leaders de ces deux religions, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas eux-mêmes neutres déjà. Il y en a qui ont tapé à voter pour X, d'autres, on les voit, qui font l'éloge pour Y. Donc, c'est pour vous dire que
d'accord. Les religieux... D'accord. Une minute à vous, M. Yago. Qu'êtes-vous en train de faire pour éviter une crise post-électorale?
Je l'ai dit dans mes propos ici que le président a tendu la main à l'ensemble des Maliens, que là, nous ne sommes plus dans une campagne électorale, malheureusement, c'est terminé. La bataille après la bataille électorale, opposition et majorité se donnent la main pour travailler, bien entendu. S'il y a des difficultés ou des écueils, ça et là, ils peuvent critiquer. Et c'est ça le rôle de l'opposition, critiquer de manière constructive pour qu'il puisse être une alternative crédible demain. Donc je pense que le président a tendu la main, il faut accepter cette main tendue pour que nous n'allions pas dans l'impasse. On ne le souhaite pas et je pense que les Maliens sont suffisamment matures pour ne pas se laisser porter dans une crise post-électorale qui ne servit à personne.
D'accord, 30 secondes à vous, docteur Ali Tunkara. Est-ce que ça suffira?
Bon, très rapidement, peut-être qu'il faut vraiment d'autres acteurs, ni les religieux, ni la société civile. À la limite, qui finalement pour intervenir? Et à vrai dire, dans le contexte malien, les voix qui sont entendues aujourd'hui sont loin d'être neutres. Ce n'est pas pour rien, à chaque fois, on demande aux religieux de ne pas tisser sur le
Donc, c'est les Maliens eux-mêmes qui doivent prendre leur destin en main?
Clairement.
D'accord. Et c'est ce qui met fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nos invités, Issouf Yago, représentant de la majorité présidentielle. Je rappelle que nos tentatives pour compter parmi nous, un représentant de l'opposition sont restées vaines. Également, Dr Ali Tunkara, sociologue chargé de cours à l'Université de Bamako, était là. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde assurée par Mamadi Keïta à la régie vidéo Nuhum Djiré. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Halo Dmoni.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.